13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je vous retrouve avec plaisir en direct et jusqu'à 16h pour partager vos expériences de vie et comme chaque jour, à mes côtés, ma camarade Mouline, mais aussi aujourd'hui un petit camarade qui s'appelle Fabien et qui fait son stage de 3e ici à Europe 1. Salut Fabien. Bonjour. Et j'espère que tu vas bien apprécier cette émission car elle te concerne, elle concerne ton futur. Pendant une heure, comme vous le savez, nous vous écoutons, nous intéressons à votre vécu, qu'il soit agréable ou plus difficile. 6000 personnes sont contaminées chaque année en France par le VIH. Les personnes de moins de 25 ans représentent 14% des découvertes. Mais si la recherche avance, de nombreux séropositifs vivent encore dans l'exclusion, dans la honte. Cela a un nom, ça s'appelle la sérophobie. On l'explique par la méconnaissance des modes de transmission et elle se manifeste quand un professionnel de santé refuse par exemple de soigner un patient séropositif ou quand on est mis au placard au travail. Malgré les campagnes de sensibilisation, les clichés et les préjugés ont la vie dure. Pourquoi est-on encore exclu en 2019 quand on est porteur du VIH, alors qu'aujourd'hui, on peut avoir une vie quasi normale ? C'est le thème du documentaire de ce soir, Séropositif, le virus de l'exclusion, réalisé par Laurence Deleur et Stéphanie Malfette et diffusé à 20h50 sur France 5 dans Le Monde en Face.
C'était très tabou à l'époque, hein, et c'était vraiment les homos, enfin voilà, tout ça.
C'était considéré comme une espèce de monstruosité, en fait.
C'est que dans l'inconscient, ils l'ont pas volé.
Les ultra-religieux disaient, c'est une punition parce que vous avez péché, et ça et tout.
C'était vraiment, celui-là, il est homo, il mérite ce qu'il a cherché, donc...
Vivre avec le VIH en 2019, pourquoi est-ce encore tabou? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. C'est aussi le sujet du documentaire ce soir réalisé par Laurence Deleur et Stéphanie Malfette. C'est notre sujet d'aujourd'hui et nous écoutons, entendons vos témoignages, vos histoires car nous sommes là pour vous écouter.
Comme chaque jour, vous le savez, vous composez le 39-21, 50 centimes la minute. Pour nous écrire, Twitter, hashtag Europe 1 ou évidemment via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Joël sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Joël.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors moi j'appelle de Paris et j'ai 54 ans.
D'accord. Alors Joël, vous avez été contaminé par le VIH dans les années 90. Une époque où l'on en parlait beaucoup, tant cette maladie était un véritable fléau. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque le diagnostic a été posé?
À cette époque-là, quand le diagnostic m'a été transmis, pour moi c'était mon arrêté de mort. Quelque part, c'était la fin de ma vie, la fin de mes projets.
C'est ce que cela a impliqué pour vous, réellement.
Et réellement, c'était la fin de quelque chose. C'est-à-dire que tout s'est cassé d'un seul coup. Je me suis retrouvé dans une espèce de bulle, comme si j'avais quitté le monde. Mm-hmm. J'étais plus avec mon médecin, j'étais ailleurs.
Est-ce que vous étiez informé à l'époque sur cette maladie?
Non, réellement, pour être honnête, il y avait quelques informations qui circulaient. Bon, ça touchait les homos, ça touchait les toxicomanes.
Oui.
Mais on n'avait pas d'informations comme on peut l'avoir maintenant. On n'avait pas accès à beaucoup de choses. Et on se disait, quelque part, moi je me rappelle, c'est à peu près dans les années où j'ai commencé ma vie sexuelle. Et en fin de compte, je me disais, ça ne se voit pas, il n'y a pas de signe extérieur. Et donc, je ne me protège pas. Et en fin de compte, j'ai fait confiance à quelqu'un,
oui,
ou à plusieurs personnes, parce que je ne sais pas qui m'a contaminé. Et techniquement, c'est pas le but de cette réflexion, mais c'est que je me suis posé la question à un moment donné de me dire, mais si j'avais su à ce moment-là, est-ce que je me serais protégé?
Mm-hmm. Vous l'avez. En fin de compte, dites-moi.
Et en fin de compte, non, c'était, je découvrais la vie sexuelle, il y avait beaucoup de choses qui s'ouvraient à moi, et donc, en fin de compte, les personnes que je rencontrais étaient en pleine forme, et automatiquement, on n'avait aucun stigmate de cette maladie.
Mmh. Vous
comme
êtes,
on nous la montrait.
Vous êtes tombé, quand même dans les années où on était très peu informés sur cette maladie, on commençait tout juste à en parler.
Oui, voilà, c'est ça, puis c'était vraiment dans un milieu très spécifique.
Oui.
Voilà, on n'en parlait que dans un milieu spécifique. Et puis c'était diabolisé par les médias, enfin par les journaux, on parlait souvent du cancer, quoi.
Ouais, c'était diabolisé surtout parce qu'on disait que cette maladie touchait les homosexuels et les toxicomanes. Or, on s'est aperçu qu'après, voilà, les hétérosexuels étaient aussi contaminés autant que les autres, en tout cas. Vous l'avez d'abord annoncé à votre mère, Joël, qui vous a tout de suite soutenu. Ça a été important déjà de retenir de recevoir ce soutien de la part de votre mère.
Ah oui, pour moi, ça l'est encore. Elle est hélas maintenant, elle est partie, elle est décédée. Mais même maintenant encore, quand je vais pas bien ou quand ça va très mal, je repense à cette phrase qu'elle m'a dite. Elle m'a dit, tu sais, Joël, tu resteras quoi qu'il se passe, mon fils.
Mm-hmm.
Et cette phrase-là, elle me porte. Elle a été, voilà, c'est la première personne qui m'a ouvert ses bras. Par rapport à l'annonce de cette maladie qui voulait dire à cette époque-là la mort.
Cela vous a sauvé, en fait. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas reçu ce soutien de la part de votre mère, vous auriez été moins vaillant pour vous battre contre cette maladie?
Oui, parce qu'en fin de compte, j'aurais très vite baissé les bras.
Ouais.
J'aurais très vite... je crois que je serais parti, d'ailleurs. C'est des choses qui traversent l'esprit à un moment donné, de dire, bah, de toute façon, il me reste très peu de temps à vivre. Donc, mm-hmm. je vais quitter, je vais faire autre chose.
Ouais. Je vous posais cette question parce que je sais que lorsque vous l'avez annoncé à vos frères et sœurs, ça n'a pas du tout été le cas. Hein. Vous n'avez pas du tout reçu de soutien.
Non, ça a été... comment dirais-je, ça a été... je me suis retrouvé devant un vide sidéral,
ouais.
Devant une incompréhension, devant une... C'est même pas une incompréhension, d'ailleurs le terme est encore plus fort, je crois que c'était grosso modo...
De la peur, non?
Oui, mais même plus que ça, c'était du rejet pur et dur, parce que j'avais une maladie qui était... J'étais sale de cette maladie,
ouais.
Et je le suis encore, d'ailleurs encore en 2019,
mmh.
Et en fin de compte, eh ben, le but... c'était de s'écarter de cette maladie et encore en plus de ne pas être, comment dire, c'était un peu compliqué d'avoir quelqu'un de proche dans sa famille qui était séropositif.
Ouais.
Et automatiquement, bah, le but, c'était de le mettre à l'écart et de lui faire comprendre que, quelque part, comme je l'ai déjà entendu et encore je l'ai entendu récemment, bah, tu l'as cherché, maintenant tu le payes, il vient pas pleurer.
Joël, vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de ce que vous avez vécu ensuite et voir l'impact, que cela a eu sur votre vie.
Europe 1. Vous vivez avec le VIH, vous nous racontez votre histoire, vous nous appelez 3921. Vous pouvez nous écrire également Twitter, hashtag Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Composez le 3921 pour venir échanger avec Olivier Delacroix, pour venir nous raconter votre vie depuis que vous avez été contaminé par le VIH. Comment vivez-vous avec le virus du sida? Nous vous lisons via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Joël qui nous expliquait dans la première partie de cette émission que la réaction de ses frères et sœurs avait été très violente, puisqu'elle s'était traduite par un rejet pur et simple que vous avez subi, Joël. Vous n'avez pas parlé de votre père dans tout cela.
Non, j'ai pas parlé.
Vous lui en avez parlé? Vous l'avez évoqué avec lui?
Non, j'ai pas parlé de ma séropositivité avec mon père, tout simplement parce que, pour faire très court, on avait une ambiance qui était un peu spécifique. Mon père était très, comment vous dire, très anti tout, si on peut résumer, mais voilà, il supportait pas ni les homosexuels ni, et encore moins le sida, qu'il considérait comme un peu non pas la punition divine, mais que c'était quelque chose que l'on avait cherché. Et de ces deux images qu'il nous répétait souvent, parce qu'on voyait le reportage à la télévision, quand je me suis retrouvé séropositif, je me suis dit, de toute façon, il risque de me mettre dehors, ou enfin je serais mis au banc de lui-même, parce qu'il avait cette particularité d'être très...
Il était dans l'incapacité, de d'accepter comprendre. Et de comprendre, en tout cas. Outre votre sphère familiale, vous avez aussi été rejeté par votre sphère professionnelle. Expliquez-moi ce qu'il s'est passé exactement dans cette sphère professionnelle.
Eh ben, lorsque il s'est s'est passé un événement en 98, donc la maladie m'a rattrapé. Oui. Donc j'ai développé les symptômes du sida. Donc j'ai été hospitalisé en urgence. De cette hospitalisation, je me suis retrouvé dans le coma pendant 45 jours. J'ai mis 2 ans à me rétablir, à me reconstruire, parce que j'étais cassé de partout.
Ouais.
Et lorsque j'ai voulu réintégrer mon établissement, l'établissement où je travaillais dans la banque, j'avais vu qu'il y avait des choses qui avaient changé, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout comme avant. Et un jour qui n'avait pas été fait comme un autre, j'ai eu une altercation avec un collègue et ça s'est fini au bureau de la direction. Et à ce moment-là, cette nouvelle directrice m'annonce, me dit « Joël, tu sais, tout le monde sait que tu es séropositif. »
Comment vous l'avez prise, cette remarque ? Parce que elle sortait de nulle part, j'ai envie de dire.
Il était 9h05 du matin, elle sortait vraiment de nulle part. J'ai cru que c'était comme si on m'annonçait une deuxième fois mon arrêté. J'ai utilisé un terme fort aussi, mais mon deuxième arrêté de mort, quelque part.
Ouais.
C'est-à-dire qu'une seconde fois, on me mettait le couvercle sur la tête, sur cette espèce de chape de plomb, en me disant « Eh ben écoute, à un moment donné, on sait que tu es séropositif, il faut que tu l'annonces en réunion, parce que ça met une mauvaise ambiance, parce que ça, voilà, il y a des choses qui avaient changé. » Et moi, je me suis retrouvé mais dans un vide sidéral, je ne savais plus du tout où j'étais. Et la sanction, si je peux parler ainsi, a été que très progressivement, j'ai perdu mon poste et je me suis retrouvé plus facilement, enfin sur ce qu'on peut appeler plus facilement techniquement, aux archivages.
Oui.
C'est-à-dire que je ne voyais plus personne.
Vous avez été mis au placard. Mais comme je connais un peu votre histoire, j'aimerais que vous racontiez comment, surtout vos collègues, ont appris que vous étiez séropositif, parce que les conditions sont très particulières.
Oui. Ce qui s'est passé, en fin de compte, c'est que lorsque j'étais en soins intensifs, donc dans la période de coma,
oui.
Ma directrice de l'époque, n'ayant pas de souhaitait avoir cherché à avoir des informations, et elle a pris l'identité de ma sœur. Elle savait que j'avais une sœur, donc elle a été à l'hôpital, elle s'est présentée aux urgences, et bien entendu, en disant qu'elle était ma sœur, elle a pu avoir accès aux informations, et de savoir que j'étais, un, en hospitalisation entre la vie et la mort, pour cause de sida. Et cette information, elle l'a relayée à l'équipe.
D'accord. Donc, voilà, une façon de faire pour le moins curieuse et intrusive. On peut voir dans cette manière de faire les choses combien cette maladie... il y avait un fantasme autour de cette maladie, il y avait une peur incontrôlée pour que cette femme ait ce type de comportement et surtout relaie cette information qui vous a valu de vous retrouver au sous-sol, aux archives. Je sais que vous avez trouvé du soutien, notamment dans le milieu associatif, mais surtout j'ai envie de parler de votre santé aujourd'hui, parce que dans les années 80-90, la recherche a avancé, il y a eu les trithérapies notamment. C'est le traitement que vous prenez aujourd'hui et ça se passe bien. Expliquez-nous exactement comment ça se passe.
Maintenant, c'est vrai que depuis quelques années, c'est très récent, hein, ça date d'à peu près une dizaine, même pas une dizaine d'années, c'est vraiment très très récent. Je suis passé d'un packaging, si je peux parler ainsi, de 48 gélules par jour à quelque chose qui est, moi, ce que j'appelle la Rolls des traitements, qui est un comprimé par jour.
Ouais, c'est énorme.
Donc vous voyez, c'est énorme l'avancée donc des chercheurs, l'avancée de la science, qui nous a permis d'un moment donné de se libérer de ces charges de traitement que l'on avait et qui ont des incidences, il faut le dire aussi, sur nos corps. C'est-à-dire que nos corps ont subi toutes ces attaques chimiques de ces traitements, mais ils nous ont sauvé aussi la vie. Donc, et maintenant, on a une... je peux parler de liberté. Je peux parler de liberté.
Vous pouvez parler de vie normale ?
Presque, parce que par rapport au VIH, je parlerai.
Oui,
par rapport au VIH, même si j'oublie mon traitement, ce qui est rare, mais je peux oublier de prendre mon traitement maintenant, chose qui était impensable il y a 10 ans.
Pourquoi vivre avec le VIH en 2019, c'est encore tabou à votre avis ?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Vous en parliez tout à l'heure, il y a la peur inconsidérée, la méconnaissance surtout.
Oui.
Et c'est pour ça que j'accepte de témoigner aussi à visage découvert et d'en parler dans les écoles et ailleurs, parce que il y a une méconnaissance. On me parle souvent du sida. Ah oui, mais tu as été contaminé par la salive, en allant aux toilettes, des choses comme ça, mais c'est des choses complètement aberrantes. ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'il y aura ces fausses croyances, ces fausses idées, ben la peur du séropositif ou de la séropositive restera ancrée dans nos sociétés. Et tant qu'on ne parlera pas de ces choses qui sont claires, en disant que le VIH ne se transmet que lors de rapports non protégés, et
ou par le sang, aussi.
Ou par le sang, bien entendu, oui. Mm-hmm. Et c'est que c'est par ces portes-là que le virus peut passer. Mm-hmm. Jamais dans l'imaginaire collectif, on est encore maintenant. Si jamais moi je bois un café ou je bois un verre, et qu'on boit derrière, ah ben tout de suite la personne va être séropositive.
Je repense à l'un de mes amis qui est séropositif et qui un jour rencontre un de nos amis d'enfance qui vient d'avoir un bébé. Et on embrasse tous le bébé. Et puis à un moment, en fait, voilà, il y a une retenue et puis carrément un refus que cet ami séropositif embrasse le bébé de celui qui a été son ami d'enfance toute sa vie. Merci pour avoir témoigné de ces choses-là, Joël, aujourd'hui, parce que vous allez dans les écoles combattre ces clichés qui ont tant la peau dure. On n'attrape pas le sida aujourd'hui en embrassant, on n'attrape pas le sida avec la salive, on n'attrape pas le sida en buvant derrière un séropositif. Voilà. Aujourd'hui, on attrape le sida si on ne se protège pas avec des préservatifs ou si, bien évidemment, on a des problèmes de toxicomanie et que l'on utilise une seringue déjà utilisé. Merci en tout cas pour votre témoignage, Joël, et merci pour votre témoignage que je sais précieux pour tous ces élèves que vous allez rencontrer, comme vous le dites, à visage découvert, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans tous ces collèges. Mille merci. Dans quelques instants, nous accueillerons Florence Thun, elle est directrice du SIDAction, Ensemble contre le Sida.
Europe 1. L'histoire de Joël, c'est aussi la vôtre. Vous vivez avec le virus du sida, vous nous racontez par quoi vous êtes passé. Vous soutenez l'un de vos proches séropositifs, vous nous racontez au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Des fois, on va être là, on discute avec des personnes. Il y a des gens derrière qui vont aller trouver après ces personnes en disant « Tu sais, la fille avec qui tu parles, tu sais qu'elle a le sida
ça. Encore il y a peu de temps, on est sorti, quelqu'un est venu te voir en disant « Ah, ta copine, c'est elle qui a ça, il n'y a même pas un mois. »
Même donc, au départ, hein, c'est-à-dire que du fait que je traîne avec Morgane, mais les gens, ils avaient aussi un point d'interrogation. Tiens, elle aussi, elle est peut-être malade au final.
Un extrait du documentaire Séropositif, le virus de l'exclusion de Laurence Delard et Stéphanie Malfette, diffusé ce soir à 20h50 sur France 5 dans Le Monde en Face. Vous avez été contaminé par le virus du sida, vous êtes victime de discrimination, de rejet, vous témoignez au 39-21 avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Florence Thun, directrice du SIDAction. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Oui, bonjour. Merci
bonjour. De m'accueillir. Je vous en prie. Dans les années 80-90, le virus du sida avait une image terrible. Certains parlaient même d'un cancer gay. Les malades étaient très stigmatisés. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de cette époque ? Pourquoi on parlait de cancer gay ?
Alors effectivement, on parlait de cancer gay parce qu'on était complètement dans le flou hein, sur l'origine de cette maladie. On ne savait pas ce qu'était cette maladie qui commençait à décimer notamment des personnes jeunes avec une dégradation très très forte hein, de leur état de santé et puis évidemment au bout la mort. Et puis un constat que ce virus à l'époque atteignait plutôt les personnes homosexuelles et on a effectivement très vite fait entre guillemets des raccourcis. Oui. Très vite s'est installé cette image de la peur hein, autour du... Finalement, peut-être que le mot cancer, à l'époque, c'était le mot qui faisait le plus peur. Alors, on l'a collé, en plus, à une population en particulier.
Et le fait que le VIH touche à la sexualité, c'est aussi ce qui le rend aussi tabou, à votre avis ?
Oui, bien sûr. Et ça, quelles que soient les personnes concernées. Et de toute façon, sur la question du VIH, vous avez toujours une question qui arrive très vite, c'est finalement comment ça t'est arrivé. Parce que contrairement parfois à d'autres pathologies, on est souvent plus intéressé par la façon dont on a été contaminé parce que ça serait relayé à une histoire ou à quelque chose de réprochable. Donc ça, effectivement, on retrouve beaucoup ça avec la question du VIH.
Aujourd'hui, il existe des traitements très efficaces. Hein, je pense aux trithérapies que Joël évoquait dans la première partie de cette émission. Ces trithérapies aujourd'hui peuvent donner des résultats fabuleux puisque si on respecte bien la prise de cette trithérapie, s'il y a une certaine méthode, en tout cas une certaine rigueur à adopter, on vit normalement aujourd'hui avec le VIH.
Alors effectivement, avec ces traitements, ces traitements nous permettent de rester en vie. Alors je dis nous parce que je suis moi-même séropositive depuis 22 ans. Ils permettent effectivement de maintenir les personnes en bonne santé. Aujourd'hui, une personne qui s'infecte et qui est contaminée par le VIH a la même espérance de vie qu'une autre personne si elle prend ses traitements régulièrement. Mm-hmm. Et là aussi, comme sur d'autres traitements, on les supporte plus ou moins. Alors Joël effectivement parlait du fait qu'aujourd'hui il prenait une pilule par jour. Je vois très bien à quoi il fait référence. Moi, j'ai pris cette pilule par jour également et je ne l'ai pas du tout supportée. Elle m'a rendue complètement insomniaque. Mm-hmm. Ce qui montre qu'encore maintenant, hein, malgré ces progrès très très forts, on a aussi évidemment quelques effets secondaires qui restent parfois, mais bien entendu, rien à voir avec ce qu'ont pu vivre les gens dans les années 90.
Parce qu'aujourd'hui, en 2019, les malades sont encore stigmatisés, hein, rejetés, alors que ces fameuses trithérapies dont on parle peuvent nous donner, en tout cas peuvent donner une vie normale hein, aux malades. Ils peuvent faire des projets, ils peuvent aussi avoir des rapports, alors pas non protégés, mais presque, en tout cas on peut faire des bébés aujourd'hui, lorsqu'on est porteur du VIH et qu'on prend cette trithérapie. Comment expliquez-vous que ces clichés aient aussi la peau dure, qu'on continue à être à rejeter tous ces malades?
Eh bien, c'est bien ce qui rend, c'est pour ça que j'ai toujours du mal moi avec le terme normal. Enfin, déjà, une maladie chronique, quelle qu'elle soit, finalement, je ne pense pas qu'on ait une vie normale à partir du moment où on a une maladie chronique. Mais c'est vrai qu'effectivement, on peut aussi avoir aujourd'hui des relations sexuelles, y compris sans utiliser le préservatif, hein, grâce à ces traitements, grâce aux effets préventifs du traitement, avoir un enfant, mener des projets tant qu'on n'a pas envie d'acheter une maison parce qu'on n'a toujours pas de prêt ou d'assurance. Mais en tout cas, ce qui reste effectivement, hein, c'est que si la science a progressé, la société n'a pas progressé à la même vitesse. Et ce qui reste aujourd'hui vis-à-vis du VIH, c'est la peur et les tabous qui sont exactement les mêmes que dans les années 80-90. Et c'est ça qui est terrible et je pense que c'est dû en partie au fait qu'on en parle moins. Les personnes vivant avec le VIH deviennent de plus en plus invisibles. On parle moins de la question du VIH. Et qu'est-ce qui reste du VIH? Eh bien, ce sont effectivement les peurs et les fantasmes.
Alors, bien évidemment, ce soir, j'invite tout le monde à regarder ce documentaire Séropositif, le virus de l'exclusion, réalisé par Laurence Deleure et Stéphanie Malfette, qui sera diffusé à 20h50 sur France 5. Parce que on a l'impression qu'aujourd'hui, VIH, SIDA, séropositif, ce sont des termes qui sont encore flous dans la tête des gens. Pouvez-vous nous préciser encore ce que c'est que le VIH, que le SIDA, qu'être séropositif, s'il vous plaît?
Alors effectivement, le VIH, c'est le virus, donc on est infecté par un virus. Le SIDA, c'est la maladie ou les maladies qui se développent quand le virus n'est pas contrôlé par un traitement. Donc de fait, le virus se multiplie dans le corps, les défenses immunitaires baissent, n'arrivent plus à contrôler les différentes agressions autres. Les personnes donc développent ce qu'on appelle des maladies opportunistes, c'est-à-dire qu'elles profitent de l'invasion du virus et de la baisse des défenses immunitaires pour s'installer. Et à un certain degré et à certaines maladies, on est dans ce qu'on appelle le stade SIDA. Et le SIDA, c'est vraiment, on est malade et on risque effectivement de mourir si on n'a pas de traitement. Mm-hmm. Mais si on est donc contaminé par le VIH et qu'on est donc être séropositif, c'est effectivement être porteur du virus du VIH, si on a un traitement, on ne développe pas la maladie SIDA. Donc effectivement, quand les personnes disent « tu vas attraper le SIDA », non, on n'attrape pas, on est contaminé, mais en plus on n'attrape pas le SIDA, on est contaminé par le VIH, par le virus, et pas par le SIDA.
J'ai l'impression que dans les années 2000, il y a eu des campagnes de sensibilisation beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes. Je pense notamment à des personnalités qui étaient très investies dans le SIDA. Je pense à Christophe de Chavannes qui s'est battu à l'époque pour que le prix du préservatif descende à 1 franc. Aujourd'hui, mon impression, c'est que les Français entendent beaucoup moins parler du VIH, et notamment les plus jeunes. Est-ce qu'ils sont si bien informés que ça aujourd'hui?
Alors non, on a malheureusement on a un sondage chaque année qui montre que encore une proportion trop importante de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, de jeunes ont des idées fausses sur le VIH, sur les modes de transmission. Donc on sent bien qu'il y a un manque d'information. Alors qui fait que notamment dans les lycées, il y a insuffisamment d'informations sur la sexualité de manière générale, sur la santé sexuelle et donc le VIH. Oui. Et puis on a aussi un phénomène qui fait que dans les années 90, bien entendu, on entendait beaucoup parler du VIH parce que les personnes mouraient, hélas, et qu'aujourd'hui, une personne qui est séropositive et qui est sous traitement, si par exemple elle a un métier, elle est bien entourée socialement, quel intérêt elle aurait évidemment à les témoigner, parce qu'elle a peur que justement, à cause du tabou, elle soit finalement discriminée. Donc il y a moins de témoignages des personnes vivant avec le VIH, donc ça donne l'impression que finalement, bah, on n'a plus dans notre entourage de personnes vivant avec le VIH, alors qu'on a tous quelqu'un qu'on connaît qui peut être, qui peut avoir un cancer, ou parce que les gens en parlent plus. Mmh. Et de fait, le VIH devient invisible. Et avec cette invisibilité, ça crée une fausse image, ça donne l'impression que le VIH a disparu.
Cela crée surtout chez les jeunes aujourd'hui le fait que, comme on parle moins du VIH, eh bien, on en oublie qu'il faut se protéger lors des rapports sexuels. Et en fait, on note chaque année un nombre de séropositifs aussi bien chez les hétérosexuels qui est un chiffre assez important chaque année. Combien de séropositifs chaque année?
Alors, chaque année, on a environ un peu plus de 6000 personnes qui découvrent leur séropositivité.
Ouais.
Voilà, avec un nombre important de jeunes, un peu plus de 11%, qui, en tout cas selon les derniers chiffres, avec un chiffre en augmentation de 24% depuis 2007.
Ouais.
Et puis, ce qui est aussi à noter, c'est que on a 25% de personnes parmi ces personnes qui ont plus de 50 ans.
Mmh.
Et on se dit, ces personnes-là, finalement, elles ont vécu cette période des années 80-90. Et là aussi, elles oublient. Elles se disent que, j'ai plus de 50 ans, je refais ma vie. Et finalement, le VIH, est plus là. Quoi. J'ai plus de risque.
Mmh.
Bah non, il est toujours là. Ben et la preuve. Quoi.
Ouais. Il est toujours là et bien présent. Florence Thune, vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous accueillerons Christine. Elle a été contaminée à l'âge de 22 ans. Toute sa vie de femme a été remise en question, notamment le fait, justement, d'avoir des enfants.
Europe 1. Vous vivez avec le VIH, venez nous raconter votre histoire. Vous nous appelez au 3921. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1. On se retrouve sur Europe 1. Olivier Delacroix vous écoute. Vous avez été contaminé par le virus du sida. Comment vivez-vous avec votre maladie? Êtes-vous victime de sérophobie? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Mark Ronson et Miley Cyrus avec Nothing Breaks Like Your Heart sur Europe 1. Le producteur britannique Mark Ronson et la chanteuse anglaise Miley Cyrus avec Nothing Breaks Like Your Heart. Vous êtes séropositif. Comment vivez-vous avec le virus du sida? À quoi êtes-vous confronté? Vous témoignez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons maintenant Christine sur l'antenne d'Europe. Bonjour Christine, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Christine?
J'appelle de Paris, j'ai 50 ans.
D'accord, alors vous dites que lorsque vous avez appris votre contamination, le monde s'est écroulé. Vous saviez ce qu'était cette maladie, ce que ça voulait dire pour vous. En quelle année exactement cela vous est arrivé?
Ben, l'annonce m'a été faite en 90, donc ça remonte à quelques années quand même déjà en amont.
Oui.
Donc effectivement, c'était encore le symbole de la mort. Et pour moi, il n'y avait plus d'avenir. Pour moi, je faisais du sport de haut niveau, donc j'allais devoir tout arrêter. J'aurais plus de vie de famille, plus de vie professionnelle. Donc j'ai perdu un peu confiance et je suis j'ai beaucoup maigri et quelque part j'ai frôlé la mort à cette époque-là au moment de l'annonce.
C'est ce qui vous est arrivé, donc en fait tout ce à quoi vous aviez pensé vous est arrivé, ou est-ce que lorsque vous avez été diagnostiqué finalement votre corps a suivi les pensées que vous projetiez?
En fait, c'est plutôt le mental et ma perception de la maladie qui ont fait que mon corps, n'était pas bon. J'ai beaucoup maigri.
Oui.
J'ai perdu beaucoup de poids à cette époque-là, mais du fait que je me nourrissais que trop peu, et puis pour moi il n'y avait pas d'issue, donc autant mourir tout de suite. Et
oui.
Puis finalement, j'ai, sans doute parce que je suis sportive, eu un regain de vie qui m'a amené à me dire qu'il fallait que mon expérience serve aux jeunes, puisque je joue au foot et à haut niveau, donc au moins une manière de s'identifier pour les jeunes et de se dire que peut-être que je pourrais sauver un ou une jeune d'une éventuelle contamination en témoignant, en allant faire de la prévention et de la sensibilisation dans les écoles. Et c'est comme ça que quelque part, j'ai pu remonter la pente et me dire que la vie était belle quelque part et qu'il fallait continuer à vivre.
Vous avez eu peur d'être rejetée au début?
Au début, oui, parce qu'il y avait encore des fausses idées sur la contamination, notamment le médecin qui disait à mes parents qu'il fallait que j'aie mes couverts à part, mais Mais quelque part, est-ce que je dois lui en vouloir? Non, parce que c'était en 90 qu'on ne savait pas trop. En tous les cas, que l'ignorance, voilà, et puis que l'ignorance, parfois, c'est seulement parce qu'on ne sait pas. Donc, quelque part, c'est de rétablir un peu la vérité là-dessus et de continuer à en parler pour que l'exclusion, même si aujourd'hui on parle moins du VIH, n'ait plus lieu, même en 2019.
Mmh. Sur le plan intime, il était inconcevable pour vous d'avoir des rapports amoureux à ce moment-là?
Ah ben à ce moment-là, oui, c'était clair. J'avais peur de contaminer l'autre. Pour moi, j'étais un corps qui était pas sain. Donc je suis restée sans sexualité pendant des années. Et puis à me dire que je pourrais plus avoir d'enfant non plus, parce qu'il était hors de question pour moi, même s'il y avait le risque était moindre de me dire que au moins mon enfant puisse être séropositif à l'époque. Donc voilà, j'ai puis petit à petit, c'est un travail sur soi. Et puis du fait d'en parler, de m'ouvrir vers les autres, on évolue aussi. Et c'est ce qui m'est arrivé.
Aujourd'hui, vous dites que vous êtes à l'aise avec votre sexualité, mais que vous avez fait le deuil d'avoir des enfants. Pourquoi?
Parce que j'ai toujours, mais ça c'est peut-être ma perception, parce que ça fait longtemps que je suis contaminée aussi, c'était de me dire, même s'il y a un risque, comme aujourd'hui, me dire je n'utilise plus le préservatif parce que j'ai des traitements et que peut-être on risque de moins contaminer, pour moi c'est impossible. Et même s'il y a un risque sur plusieurs milliers, je ne peux pas le prendre, je ne peux pas le prendre, c'est ma responsabilité à moi, alors c'est ma façon de penser, mais je pense qu'elle est vraie aussi pour beaucoup de personnes séropositives.
Mmh. C'est quand même très lié au tabou et à la pression qui entoure cette maladie aujourd'hui, parce que je crois savoir tout de même que ces traitements donnent des résultats assez formidables d'un point de vue du fait d'avoir des enfants déjà.
Oui, effectivement, la transmission mère-enfant est fortement réduite de par l'évolution de la recherche sur ce sujet-là. En revanche, aujourd'hui, j'ai des traitements et ça ne guérit pas. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les traitements guérissent du VIH. Donc, pour ma part, je suis toujours contaminante, c'est-à-dire que je peux contaminer une autre personne. Donc, si je ne propose pas le préservatif, il faut que l'autre le propose. Bien sûr que je le propose toujours, mais la vraie réalité, elle est celle-ci. Et puis, je pense qu'il faut avoir une approche un peu plus globale aussi, parce que c'est vrai que vous dites que c'est un tabou, parce que ça parle de sexualité. Et aujourd'hui, je pense réellement qu'on ne parle pas assez dans les lycées, les collèges, les établissements scolaires, d'éducation à la sexualité d'une manière globale, c'est-à-dire qu'il y a le VIH, mais il y a les infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles, qui peuvent être une porte d'entrée pour le VIH. Ça, malheureusement, beaucoup de jeunes l'ignorent, et le préservatif est le seul moyen aujourd'hui de se protéger, qu'il soit masculin ou féminin.
Malheureusement, on n'en parle pas assez. On va en profiter pour... on a Fabien aujourd'hui qui est en stage au cœur d'Europe 1. On t'en parle, Fabien, tu es en troisième. Est-ce que tu as entendu parler un peu du VIH, de la contamination, et comment te protéger?
Alors, l'année dernière, moi j'ai eu une campagne de... Une spécialiste, elle est venue parler de la sexualité avec nous, donc elle nous a parlé aussi du sida.
Ouais.
Donc on a pu débattre avec elle, et elle nous a expliqué les différents moyens de se protéger et tout ça.
Et tu as l'impression que ça a été bien perçu par tout le monde, bien compris?
Oui.
Bon.
Oui.
Bon, en tout cas, toi tu sais ce qu'il te reste à faire le jour où...
Oui, me protéger.
Voilà, très bien. Merci beaucoup Christine pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Emmanuel. Il a su à peu près il y a un an qu'il était contaminé. Aujourd'hui, il fait de son investissement associatif une force contre la maladie.
Un témoignage sur Twitter, Alta Koaya, qui doit être un personnel, une personne soignante, sort de la chambre d'un patient qui sonnait, mais dont je ne m'occupe pas. L'aide-soignante lui dit « Tu devrais nous demander quand c'est pas tes patients. Lui, il a le sida. Il faut faire attention. Moi, et alors ?» Je suis sidérée qu'en 2019, des soignants jeunes puissent faire ce genre de réflexion.
Europe 1.
Vous vivez avec le virus du sida, l'un de vos proches. Quel impact cela a sur votre vie? Vous nous racontez au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
C'est un garçon que j'avais rencontré sur Internet. Et donc, on arrive le moment où il faut se rencontrer. Et avant qu'il se passe quelque chose, je lui dis que j'étais séropositif. Et là, il a eu ce moment de recul. Et puis, ma fille, je peux pas. Toute la soirée qu'on avait passée avait disparu. Et je redevenais un inconnu. Et un danger, quoi. Enfin, vraiment, dans son regard, j'avais l'impression d'être la mort, quoi. Enfin, vraiment, c'était ça, dans son regard. Et il est parti.
Voilà, c'est un extrait du documentaire Séropositif, le virus de l'exclusion de Laurence Delort et Stéphanie Malfatte, que vous allez pouvoir voir sur France 5 ce soir à 20h50 dans Le Monde en Face. Pourquoi être porteur du virus du sida, est-ce encore tabou en 2019? Vous êtes avec Olivier Delacroix, 39-21.
Et nous accueillons maintenant Emmanuel sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'habite à côté de Dijon, à Longwy, et j'ai 23 ans.
D'accord. Alors, vous, Emmanuel, le 5 janvier 2018, vous avez découvert que vous étiez séropositif. À l'époque, vous étiez assistant parlementaire. Vous dites que ça s'est su très vite à votre travail. Vous avez ressenti un sentiment de honte à ce moment-là?
Oui, tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Le 5 janvier, je reçois un texto d'une personne avec qui j'avais une relation et qui me dit « Voilà, je suis à l'hôpital, je pense qu'il faudrait que t'en fasses de même. » Et juste avant de partir à l'hôpital, je préviens quelques collègues que je m'absente pour l'après-midi en expliquant à deux collègues ce qui m'arrive. Et je vais à l'hôpital, très compliqué, puisque à ce moment-là, assez rapidement, on m'annonce que je suis séropositif. Et quand je reviens au travail, la moitié de mes collègues sont au courant et c'est compliqué.
Comment est-ce que vous avez réagi? Parce qu'on est en 2019, vous êtes attaché parlementaire, donc on peut penser que vous êtes dans un milieu où on débat beaucoup, où on est au cœur de l'évolution de notre société hein, et de ce pays. Pourtant, les réactions me semblent complètement hallucinantes quand vous dites que quand vous êtes de retour au travail, tout le monde en parle.
Tout le monde en parle parce qu'en fait, oui, c'est une assemblée où on débat, mais en fait, on débat de sujets d'actualité et aujourd'hui, on ne fait plus du VIH un sujet d'actualité comme ça a pu être le cas dans les années 80-90. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui s'est banalisé. On parle de sexualité très facilement, notamment à mon âge, mais par contre, au moment de parler prévention, on parle peut-être de questions de préservatifs pour éviter une grossesse, mais on parle très peu de prévention. Donc, dans ce milieu politique qui déjà fait pas de cadeaux en temps normal, eh ben, on se retrouve avec des collègues qui, pour la plupart, ça se passe bien, ils font juste en parler, mais d'autres qui vont sous une attitude bienveillante vont nous dire il faudrait peut-être que tu te reposes, il est peut-être préférable que tu ne viennes pas au travail puisque tu as besoin de te reposer, et en plus tu vas être absent, tu vas être hospitalisé souvent. Donc voilà, en fait on vit avec des clichés encore en 2019, c'était en 2018, hein, donc il n'y a pas longtemps, mais c'est toujours le cas, il y a toujours des clichés autour de cette maladie.
C'est ce que j'allais vous dire, on a beau parler librement de sexualité, là dès qu'on parle d'une contamination, on a l'impression qu'on parle d'une autre manière.
En fait, c'est facile de parler d'un sujet qui nous semble très lointain, mais en fait, quand c'est juste à côté et que c'est notre collègue de travail qui travaille peut-être en face, qui est pas loin, quelqu'un qu'on croise tous les jours, là, ça devient un peu plus compliqué pour les personnes, puisque en fait, pour beaucoup, on ne sait pas qu'aujourd'hui, on vit avec le VIH. Pour beaucoup, on transmet le virus. Il y a eu une enquête très, très dramatique au mois de mars l'année dernière qui expliquait qu'en fait, la plupart des jeunes de moins de 25 ans pensent encore qu'on se transmet le VIH en faisant la bise, en disant bonjour, en serrant la main, en buvant.
Alors, oui, c'est hallucinant que toutes ces idées n'aient pas encore... qu'on n'ait pas tordu le cou à tous ces clichés. Vous avez ensuite démissionné. Emmanuel, vous dites aujourd'hui que c'était une forme de fuite. Pourquoi avoir pris cette décision?
J'ai pris le choix de démissionner puisque pour moi, en fait, c'était honteux. J'avais peur du regard des autres. Dès le vendredi, en fait, quand je reviens au travail, je me sens stigmatisé. Je vois qu'on me parle, qu'on me regarde pas de la même façon. En tout cas, c'est ce que je ressens à ce moment-là. Le week-end passe, je retourne au travail le lundi et finalement, c'est impossible pour moi. En plus, j'ai reçu tout le week-end des messages de collègues me disant « ça va aller, on va plus te voir, tu vas partir ». Donc, très stigmatisant. Et finalement, je retourne travailler le lundi, le mardi et le mercredi, je décide d'être mis en arrêt. Je suis mis en arrêt pendant 2 mois et je démissionne fin février 2018 en disant que je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter ce regard permanent des personnes qui veulent tout savoir et être dans un lieu où en fait tout le monde est au courant et finalement se rendre compte que le regard de l'autre change, même si c'était des personnes de qui on pouvait être plus ou moins proche.
Oui. Florence Thune, je rappelle que vous êtes directrice de SIDAction Ensemble contre le Sida. Lorsque vous écoutez Emmanuel évoquer son expérience, ce rejet, hein, ce rejet feutré, mais un rejet quand même prononcé, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ?
Oui, ça me parle parce que malheureusement, quels que soient nos âges, quelles que soient nos histoires de vie avec le VIH, on est tous toujours confrontée à un moment ou à un autre à cette situation de discrimination, de rejet. Et de fait, on est vraiment dans une situation où on peut être à tout moment rejeté. J'ai vécu moi la même chose il y a à peu près un mois au cours d'une consultation avec un médecin. Donc voilà, on peut être dans cette situation n'importe quand, qu'on ait 23 ans ou qu'on en ait 50.
Mmh. Vous restez avec nous, Florence Thune. Je rappelle que vous êtes directrice de SIDAction Ensemble contre le SIDA. Emmanuel, vous restez aussi avec nous. Nous allons continuer à parler de ces tabous, de ces clichés qui entourent aujourd'hui les personnes touchées par le VIH.
Europe 1. Vous vivez avec le virus du SIDA, le VIH qui continue de provoquer la peur, l'exclusion. Comment réagissent vos proches, votre entourage? Vous composez le 3921. Nous continuons de vous écouter. Vous êtes porteur du virus du SIDA. Êtes-vous victime de rejet, de discrimination? Vous allez retrouver Olivier Delacroix, le 3921, pour venir nous raconter votre histoire. Voici Boulevard Désert et Vianney. Allez, reste sur Europe 1. Le groupe de Tarbes, Boulevard Désert, accompagné du chanteur Vianney, avec Allez, reste, vivre avec le VIH en 2019, on en parle cet après-midi avec vous. Pourquoi est-ce encore tabou? Vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Emmanuel, qui a appris sa séropositivité il y a à peine un an et qui nous expliquait avoir choisi de démissionner devant l'attitude de collègues qui finalement montraient qu'en 2019, donc encore aujourd'hui, être porteur du VIH, eh bien, véhicule un certain rejet de la part des autres. Emmanuel, ce jugement, cette peur, vous dites que cela vient de votre milieu. Qu'entendez-vous par là?
J'entends que quand on est un jeune, quand on est motivé, encourageant dans une dynamique de travail, en fait, on a l'image d'une personne qui est invincible, qui a encore tout son temps à faire. Et d'un coup, quand on met une étiquette VIH, souvent, on se rappelle les années 80-90 et du coup, on voit mort. Et du coup, à ce moment-là, l'étiquette sur la tête change pour les personnes que vous avez en face de vous.
Pour vous, est-ce qu'il y a une forme d'homophobie derrière cette sérophobie? Est-ce que c'est cela que vous avez ressenti aussi?
Évidemment, c'est même évidemment le message de tout ça, c'est que on a derrière cette maladie qu'on a longtemps, j'entendais tout à l'heure Joël qui expliquait qu'on parlait de cancer gay, mais en fait c'est bien ça, on a encore cette image en 2019 d'une maladie qui est chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, et on oublie qu'en fait ça touche une autre partie de personnes. Alors c'est mon cas, mais il y a d'autres personnes, notamment les publics hétéros, les publics migrants, les consommateurs de produits psychoactifs qui sont touchés. Mais en fait, on garde même en 2019 cette image de gay qui est rattachée à l'image de séropositivité.
Est-ce que vous avez eu l'impression d'être entouré par vos proches lorsque vous leur avez annoncé cette séropositivité?
Alors, moi, je me suis enfermé et du coup, j'ai très peu vu mes proches, mais au bout de 2 mois, j'ai fait le choix d'en parler, notamment à mes parents. Ça s'est bien passé, même si eux, vu ma génération et du coup la leur, ils étaient en plein dans les années 80-90 quand ils étaient jeunes. Et du coup, eux se sont inquiétés pour moi. Donc, globalement, j'étais assez bien entouré par ma famille, même si j'ai fait le choix de fermer la porte à beaucoup de mes amis par crainte et par honte. Mais c'est surtout le côté associatif qui m'a sauvé la vie, ben, je peux le dire aujourd'hui, parce que finalement, c'est en février-mars 2019, je décide de franchir la porte d'un local de aide.
Oui.
Et c'est à ce moment-là où je rencontre des personnes qui ont l'habitude de travailler sur ce sujet-là. Et j'étais particulièrement content, bien accueilli. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en 2019, je milite dans cette association.
Et vous faites bien, car Aide, depuis qu'on connaît cette association, n'a jamais baissé les bras et a toujours maintenu le combat. Parce que je crois qu'il y a eu une prise de conscience de Aide qui savait que ça allait durer encore très très longtemps. Justement, Florence Thune, lorsque vous écoutez Emmanuel, est-ce que vous avez l'impression que l'entourage aujourd'hui, en 2019, il soutient mieux celui qui annonce sa séropositivité?
Alors, Cela dépend vraiment de chaque personne. Hein. On a effectivement des personnes qui ont la chance d'avoir un soutien familial et amical qui est extrêmement important également dans l'entourage professionnel. C'est pas un hasard. Effectivement, Emmanuel dit qu'il travaille à Aide. Moi, je travaille à Sidaction. Quand on a la chance, entre guillemets, de travailler dans un milieu professionnel favorable, c'est aussi important. Et voilà, c'est aussi dans ces moments-là que, comme le font de nombreuses associations, que c'est important aussi d'avoir un endroit où aller aussi parler de sa séropositivité. C'est aussi pour ça que voilà, Sidaction continue à organiser son événement de collecte annuel, hein, comme la semaine prochaine. Hein, oui. Continue à collecter des dons pour soutenir l'ensemble de ces associations. On peut effectivement avoir un temps où on peut parler de sa séropositivité, avoir des conseils, parce que c'est aussi important quand on n'a pas la chance d'avoir un soutien de proches.
Bah oui, parce que lorsqu'on écoute Joël, comme Christine ou comme Emmanuel, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé peut-être, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas vraiment l'impression que ça donne. On a l'impression que c'est encore très tabou, en tout cas qu'on cache celui qui est séropositif.
Oui, oui, et c'est pour ça, on verra dans le documentaire ce soir sur France 5, hein, on a exactement ce type de réaction encore maintenant en 2019. On tient vraiment à dire que ces témoignages des personnes qui acceptent d'appeler, comme dans vos émissions et dans d'autres émissions, c'est effectivement important parce que c'est ce qui va permettre aussi de lever le tabou, de dire aujourd'hui je suis séropositif, eh bien vous pouvez travailler avec moi, faire l'amour avec moi et faire tomber ces tabous.
Mmh. Emmanuel, en témoignant aujourd'hui, vous souhaitez dire une chose importante, c'est qu'il ne faut pas avoir honte. Je dis ça parce que lorsque nous avons échangé ensemble, vous m'avez dit avoir utilisé une application de rencontre et d'avoir signalé votre séropositivité et avoir été victime d'ailleurs de séophobie, même là où on s'attendrait à avoir affaire à une génération qui accepte, qui comprend, mais non.
Oui, tout à fait. En janvier 2018, du coup, je suis inscrit sur une application de rencontre. Je pense qu'il faut la citer parce que pour moi, c'est inadmissible, mais qui s'appelle Grindr et qui, du coup, à ce moment-là, je marque sur cette application que je suis séropositif et le comportement est absolument horrible puisqu'en fait on a des personnes qui sous stigmatisation et sous honte de cette maladie vont m'insulter, vont dire que de toute façon je suis là que pour contaminer d'autres personnes avec un mythe qu'en fait une personne séropositive est inscrite sur des applications pour aller contaminer d'autres personnes. Ce qui est pas du tout vrai, bien évidemment. Et maintenant que je suis engagé dans l'associatif, je me rends compte que mon cas, en fait, est loin d'être isolé et que cette stigmatisation existe énormément. Alors moi, c'était sur une application de rencontre dite gay. C'est valable aussi sur d'autres applications, qu'elles soient hétéro ou autres. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire.
Oui, allez-y.
Je remercie juste Florence, justement, qui dit qu'aujourd'hui, il faut en parler, qu'il y a des acteurs associatifs, mais qui dit très justement qu'en réalité, aujourd'hui, eh ben, même si tout va bien sur le plan de traitement pour beaucoup de personnes, eh ben, on a toujours ce sentiment que même en 2018 et en 2019, eh ben, on n'a pas forcément évolué dans les mentalités par rapport aux années 80-90.
En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en vous entendant, on entend qu'il ne faut pas avoir honte d'être porteur du VIH et que cette séropositivité, eh bien, aujourd'hui, on la vit, on peut la vivre. Merci beaucoup Emmanuel pour votre précieux appel. Merci à Joël, à Christine, à Florence Thune pour ses éclairages. Être séropositif, ce n'est pas une honte, on l'a vu, et il faudrait que ça ne soit plus un tabou non plus. Tout au long de cette émission, on a entendu qu'on peut vivre aujourd'hui normalement, même lorsqu'on est atteint par le virus. La sérophobie cache souvent méconnaissance et préjugés, et c'est contre cela qu'il faut lutter, en parler encore et toujours, de l'exclusion, de la honte que vivent ces personnes atteintes du VIH. Cela a un nom, la sérophobie. On l'explique par la méconnaissance des gens, et puis cette méconnaissance, eh bien, vous pouvez la combattre en vous tournant, vous aussi, vous qui ne connaissez pas le sida, vers AIDS ou vers le SIDAction. Vous en apprendrez un peu plus sur ces personnes qui sont malades, et puis vous aurez des réponses à vos interrogations. Ce soir, je rappelle qu'il y a Le Monde en face et que l'on donne la parole aux personnes séropositives dans le documentaire Séropositif, le virus de l'exclusion. C'est à 20h50 sur France 5.
Et vous rappelez que le SIDAction, le week-end SIDAction, ce sera le 5, 6 et 7 avril prochain. Et pour faire un petit don, vous pourrez envoyer par SMS don, D-O-N, au 92 210 pour faire un petit don de 5 euros.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des relations entre grands-parents et petits-enfants, une relation qui traverse les âges. Alors, si vous avez été élevé par vos grands-parents ou si vous avez élevé vos petits-enfants, si vous vous sentez dépassé par la vie de vos petits-enfants, si vous avez une relation très fusionnelle avec vos petits-enfants ou au contraire, pas du tout, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Et puis, vous nous parlerez de nos histoires aussi, parce que nous connaissons nos grands-parents et on a vécu pas mal de moments avec. Ma chère Ambline, j'étais ravi de passer cette heure avec vous et je vous laisse maintenant avec Carl Zéro, qui, comme d'habitude, est encore bien entouré, mon cher Carl, aujourd'hui.
Eh bien, mon cher Olivier, mes tontons flingueurs du jour sont Cali et Samuel Etienne.
Les tontons flingueurs de Carl Zéro, c'est à partir de 16h sur Europe 1. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. À demain, 15h. Au revoir.